Bonjour! Hey, c'est-tu pas assez le fun, ça? À être au mois de juin? Hey, il fait chaud, fait beau. On a enfin comme un été, tu sais? On s'en masque aussi, ça permet aussi de mieux respirer. En tout cas, moi, quand j'étais allée enseigner, puis mes élèves, ils ont vu mon visage, ils ont été étonnés de voir à quel point j'étais jeune. Puis moi, j'ai été étonnée que j'ai autant de boutons d'en face aussi. Mais bon, aujourd'hui, je parle pas de ça, je parle pas de mon acné, c'est vraiment pas ça, hein, l'objectif. Là, aujourd'hui, je reçois un humoriste, j'en avais parlé la dernière fois dans ma chronique précédente. Je sais pas si tu l'as écouté, là, je te parlais de la mémoire et des techniques que j'utilise pour mémoriser mon texte ou faire apprendre à mes élèves un texte. Et là, aujourd'hui, ben moi, je reçois un humoriste. Il s'appelle Louis Gérard Bock. Donc, c'est vraiment un. Il a fait l'École nationale de l'humour en écriture. Et super, c'est la première fois que j'y ai parlé. Honnêtement, je ne l'ai jamais rencontré dans des soirées d'humour. Je l'ai juste rencontré en virtuel sur Instagram. On ne s'est jamais parlé, mais j'écoutais ses numéros pendant le confinement. Et je trouvais tellement que ça sonnait beau. Comment il s'exprimait, il y avait un bon rythme, c'était musical. Je sais pas, j'avais envie vraiment d'apprendre à le connaître. Fait que j'y ai écrit puis je l'ai invité à venir s'exprimer un peu sur mon podcast. Donc avant notre rencontre, Louis a reçu une liste de 10 questions puis il en a choisi trois là-dedans. Et ensemble, on va découvrir ben, c'est quoi les trois questions qu'il se pose. Je m'appelle Coralie Dubeau. Je suis enseignante et humoriste et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Mais bonjour Louis.
Enchantée.
Ça va bien?
Très bien toi-même.
Oui, super. Je te remercie encore de t'être déplacé.
Ça fait plaisir.
Montréal-Terrebonne.
C'est pas facile.
C'est
C'est pas
pas facile.
facile.
C'est surtout pas. C'est pas un choix. En vrai, c'est vraiment pas un choix. À moins qu'il y ait une activité qui se passe. Fait que vraiment.
Ouais, non, c'est ça. Je suis jamais venu rien faire à Terrebonne.
Oh, c'est ça,
Ça prend une raison, quand même.
c'est. C'est exactement ça. Fait que. Puis je vais t'expliquer aussi pourquoi. Avant de commencer, pourquoi je t'ai choisi. T'sais.
OK.
Parce que, comme je l'avais dit tantôt dans la voiture, j'aime beaucoup la façon que tu t'exprimes dans tes numéros humoristiques que j'ai vus sur Instagram de toi, sur Internet, ton prochain stand-up. C'est vraiment un humour très précis dans les mots, donc dans les phrases. C'est très intelligent, je ne sais pas comment mieux le dire, là. C'est bien précisé. Fait que c'est pour ça que je t'ai choisi comme invité aujourd'hui.
Ben, merci bien, j'apprécie. J'apprécie. Je peux pas confirmer parce que je veux pas juste me faire des tapes dans le dos, mais le petit chat qui passe. Ouais, ben c'est ça, vu que j'ai commencé comme auteur, tu sais, mes premières expériences mettons, avec l'humour, ça a vraiment été tu sais, à l'écrit, j'écrivais pour du monde, des affaires de même. Puis aussi, j'ai comme un gros intérêt pour la poésie, puis genre le minimalisme en littérature. Fait que genre plus les formules de texte les plus simples, résumer quelque chose de concept de complexe simplement, j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant comme exercice. Fait qu'après ça, donc sans surprise, le liner, une ligne, un punch, c'est arrivé un peu naturellement quand j'ai commencé à faire du stand-up, ça a été ma manière de comme apprivoiser.
D'apprivoiser l'écriture, donc
Ouais, c'est ça, c'est
le
ça, exact,
phrasé.
genre. Fait que. Puis au final, comment dire. Maintenant, je fais plus de. Je sais pas si t'as vu le deuxième épisode
Non, non,
du
pas
prochain
encore.
stand-up. Mais dans le deuxième épisode du prochain stand-up, je fais du stand-up classique. Puis là, c'est un peu plus ça que je fais maintenant. J'ai comme laissé de côté le liner.
OK.
Pour une beaucoup
Multitude
beaucoup
de
de, ouais,
questions, ouais.
une multitude
Il y en a
de
pour chaque.
raisons, mais ça a été vraiment une excellente façon pour moi de commencer à faire du stand-up et tout ça. Fait que puis je trouve que c'est vraiment un exercice t'sais, pertinent pour n'importe qui pas nécessairement d'en faire mais d'en écrire t'sais, parce que c'est y a rien de plus brut pour le stand-up dans le sens où genre c'est t'écris carrément des blagues, là. T'sais, genre, c'est pas juste de raconter quelque chose, whatever,
Non.
c'est vraiment gag, 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 gag. Fait que, disons que ça t'apprend à écrire une joke puis à savoir si c'est drôle ou pas, assez rapidement.
Puis surtout, je trouve ça drôle parce que tu parles de poèmes. Puis il y a une humoriste que j'ai reçue, elle s'appelle Isabelle Monette, puis elle, justement, elle adore les poèmes, puis on a parlé de David Gaudreau. Mm-hmm. Je sais pas si tu le connais.
Je le connais pour le stunt qu'il avait fait à télé, oui. Puis pour les répercussions négatives ou positives par rapport à cette affaire-là, là, sans rentrer là-dedans nécessairement, okay. Là, mais...
Fait que, est-ce que le... Parce que tu parlais de poésie, puis là, ça m'a fait penser à David Gaudreau, mais est-ce que tu écris des poèmes aussi, vu que tu en lis, je sais pas.
Oui, mais c'est très vieux jeu, moi, mettons, j'écris et ce que je lis. Comme moi, je suis fan de Nelly Gant pis Baudelaire. Ah, okay? Là, genre, okay. Je suis fan de symbolisme, mm-hmm. Genre, pis de... Fait que, c'est un peu... T'sais, exemple, en poésie, moi, je suis vraiment fan des images plus que de la musique. T'sais, tandis qu'il y a des... Je voudrais pas dire, mettons, aujourd'hui, c'est plus ça, mais, t'sais, mettons, ne serait-ce que genre... tu sais, dans le rap ou des affaires de même, ben c'est genre, puis c'est super intéressant puis beau puis tout ça, mais tu sais, j'ai eu des amis qui, ou des anciennes fréquentations, des anciennes copines qui écrivaient d'une certaine manière, qui étaient vraiment plus musicales, tu sais, c'est des musiciennes dans leur façon mm-hmm. d'écrire, alors que moi, je me considère plus comme peintre dans ma façon d'écrire, c'est plus dans l'image puis dans les affaires de même, fait que, puis admettons dans, évidemment, comme un poète comme Nelly Gant, qui est carrément un poète symboliste, ben ça le dit dans le nom, il est dans les symboles, dans les...
Comme quoi, exemple simple, là, tu me parles de Nelly Gant.
Ouais, Émile Nelly Gant, ben, tiens, mettons, c'est un classique.
Le refus global. Moi, non. Je pense à le refus global, mais s'il y a probablement autre chose derrière ça.
Mais, admettons, tu sais, Nelly Gant, c'est celui qui a écrit Soir d'hiver, mm-hmm. qui est comme la neige a neigé, blablabla. Ça fait que ce genre d'affaire-là. Mais, tu sais, je pense que j'ai aussi lu sa biographie, une fausse biographie de lui. Ben, une fausse biographie, une biographie romancée, mettons, de lui. Qui était, tu sais, mettons, à 90% vrai, là, okay. De lui, je pense, en troisième ou en quatrième année de secondaire, puis c'est juste, tu sais, quand t'es un jeune qui passe à travers la puberté, tu sais, comme, mettons, être contre la société, tes parents, te sentir incompris, tout ça, ça te parle, tu sais, ce genre de tu sais, il vivait les mêmes affaires qu'on vit, mais ouais. Il y a 150 ans, fait que... mais tu sais, classique histoire de jeune puis mm-hmm. tout ça, puis tu sais, un peu je trouve ça fascinant aussi son histoire tragique de genre c'est quoi là, 17 21, je sais pas, il a été interné pour le reste de sa vie, tu sais, mm-hmm. puis il est mort à 60 quelque ans, mais il a passé 40 45 ans de sa vie interné où il a arrêté d'écrire, tout ça, tu sais, fait que genre c'est en tout cas c'est un personnage qui est assez fascinant, tout ça, fait que mais ouais, mon Dieu, je me suis perdu dans ce que je voulais dire, mais oui, j'en ai écrit beaucoup au secondaire puis au cégep, puis j'ai même gagné des concours, participé à des concours de poésie, puis à la fin de même, si vous écrivez mon nom, cherchez un peu, il y a de mes poèmes sur internet, peut-être un ou deux, puis mais c'est ça, mais c'est très vieux jeu comme façon d'écrire, tout ça, tu sais, ça. J'ai tout le monde que je rencontre qui a mon âge, qui écrit de la poésie, écrit de la, tu sais, se bordera pas des rimes ou des affaires de même, mais moi ce que j'aime, c'est vraiment le sonnet classique, là, fait que genre les 14 vers en alexandrin, le punch au troisième tercet, tu sais, des affaires de même, de genre j'aime ça l'exercice de respecter une formule hyper précise, tu sais.
Oui, parce que alexandrin, c'est 12 pieds.
Mais c'est pas juste un 12 pieds, c'est un 12 pieds séparé en deux parties de 6. Fait que, puis que dans le fond, tes deux 6 pieds pris séparément veulent aussi dire quelque chose. Mm-hmm. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment.
C'est complexe, mais c'est fun.
Ouais, c'est ça, j'aime l'exercice mental de faire ça. Tu sais, il faut pas que t'aies de rimes pauvres. Ça, il faut tout que ça soit des rimes riches ou plus que riches. Fait qu'en tout cas, c'est ça, cet exercice-là, je trouvais ça le fun. Je pense qu'après ça, j'ai retrouvé cette espèce de petit plaisir-là aussi dans le liner. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que moi, personnellement, ce qui n'est pas une règle du liner en général, là, mais moi, personnellement, j'aurais perdu beaucoup de temps à essayer de trouver ma couleur dans le liner parce mm-hmm. que c'est très restrictif tout ça. Alors que dans le stand-up plus classique, je me sens plus à l'aise de parler des sujets, des affaires de moi-même, tout ça. Aussi, j'aurais jamais réussi à prendre une heure de liner par cœur. C'est impossible.
Ouais. C'est impossible?
Ben non, c'est impossible pour moi. Il y a des gens, j'ai des collègues humoristes là, qui sont hallucinants par rapport aux textes qu'ils peuvent apprendre rapidement. J'ai pas ce réflexe, j'ai pas cette mémoire-là. Puis le liner, tu sais, juste pour la tournée, j'avais commencé mon numéro de tournée à l'École nationale d'humour, c'était... un 5-6 minutes de liner, ma première ronde du ouais. prochain stand-up, mettons, qui était mon, le... Il y en a juste 2, 2 et demi qui sont passés à la télé, ouais, mais j'ai fait 6 minutes. Puis, ben ça, c'est, mettons, 24 jokes environ, mm-hmm. OK? Mais 24 jokes qui n'ont aucun lien entre elles, puis là, tu sais, il n'y a pas... Je dis n'importe quoi, là, tu sais, fait que c'est comme... Il faut que je me fasse une fausse histoire ou des ouais. faux liens entre les jokes. Que je suis comment, quand j'ai fini de parler de ça, je vais parler de ça. Ah, ouais. Ça, ça parle un peu de bouffe, puis après ça, je dis que j'ai faim. Tu sais, je faisais des liens boboches pour m'en souvenir, mais ça tellement... Je prenais tellement de temps à prendre ces affaires-là que j'arrêtais d'écrire sur le numéro un mois avant parce qu'il faut que je commence à l'apprendre. Parce que sinon, je le saurais pas. D'accord. Attends. Fait que ça, je trouvais ça handicapant quand même.
C'est aussi au niveau de la structure. Des fois, le stand-up classique, il y a quand même un lien entre les idées. T'es capable d'en créer un. Tandis que one-liner, c'est comme, tu peux parler d'un sujet, puis là, OK, c'est fini. On va parler d'un autre sujet. T'sais, ça peut être plus
éparpillé. Ouais. Dès que j'ai changé au stand-up classique, ouais. je me suis mis à apprendre mes textes hyper facilement. Puis là, j'ai juste fait genre, ah, c'est parce que moi, mon esprit fonctionne pas de cette façon-là. Mais tu sais, il y a des grands one-liner comédiens qui ont toutes leurs manières différentes de... Tu sais, mettons, il y en a un en particulier, Anthony Jeselnik, qui est comme un humoriste américain qui fait un peu de l'humour noir en one-liner. Ben, lui, comment il voit ça ou sa logique, c'est qu'une fois que sa prémisse, il sait c'est quoi sa prémisse, pis tout ça, ben genre, en la disant, il sait c'est quoi le punch, parce qu'il y a rien qui... C'est sûr que ça va être ça le punch pour cette prémisse des affaires de même. Mais là, tu sais, je te comprends, mais c'est pas un truc. C'est plus comment lui perçoit les choses. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment un truc qui aide à mémoriser. C'est plus que t'es comment, okay, ouais, ton cerveau fonctionne de cette manière-là. Ouais. Tout ça. Mais...
Limite, faut que t'ailles dans le descriptif. Faut trouver un petit mini lien, là, à peine perceptible. Par exemple, tu parles, je sais pas, de pompe, là. Faut que tu switches au cheval. Fait que là, faut que tu dises. Ah, tu te racontes une histoire ou c'est l'histoire d'un cheval qui mange
au pompe. Ouais, c'est ça. C'est aussi absurde que ça. J'ai... Mettons, pour le prochain stand-up, moi, j'ai utilisé une technique de. Comment ça s'appelle? Je pense que c'est le palais de la mémoire ou whatever. Bref, c'est une technique de... Admettons, tu penses à un endroit qui t'est familier, une maison familiale, tu sais, ta maison d'enfance, ton appartement, ton école secondaire, whatever, et t'associes des sections de ton numéro, de ce que tu veux te souvenir, de ton texte. Ben, qu'est-ce que vous voulez?
Hey! Parce que tu vois, hein, c'est le jeu est rough. C'est comme amour et haine. Je sais jamais comment réagir. Je suis OK, ben, je m'excuse de cette idée.
Non, c'est
pas correct. Donc, l'idée de créer le palais de la mémoire.
Si je me trompe pas, c'est quelque chose de même. Mais c'est, en tout cas, il y a palais, puis ça a rapport avec la mémoire. Je me rappelle plus exactement du nom de la technique, mais c'est. Admettons, tu prends ça. Tu prends un endroit dont tu es capable de te souvenir de toutes les pièces à faire la même, et tu associes des parties du texte ou des sections de la chose que tu veux te souvenir à des pièces. Mmh. Là, tu sais que dans ton salon. Fait que là, j'ai un peu fait ça. J'ai pris genre, j'avais 4 blocs. Puis là, mettons, j'avais un bloc dans ma cuisine, ma chambre, mon salon, mon bureau. Mm-hmm. Fait que là, j'avais mon parcours mental de moi qui marche dans ma maison. Fait que là, je sais que quand je suis face à ma fenêtre, dans mon salon, ben là, j'étais rendu à parler de ma mère qui me donne un truc pour passer à travers la vie. T'sais, en tout cas, j'avais.
Comme
mes associations, tout ça, mais tu vois, ça m'a pris énormément de travail, puis c'était juste 6 minutes. Fait que j'étais comme, tu vois, c'est peut-être que tu fonctionnes pas de même, tout ça.
Ouais. Ah, OK. Ben, en tout cas, c'est vraiment complexe, la mémoire, puis l'idée d'association, comme tu dis. Puis là, tu as parlé aussi de symbolisme, puis là, je vais aller à la première question que tu avais choisie en lien avec, là, je parle du moment absurde. La question en lien avec l'absurde, tu as parlé de symbolisme, puis là, ça m'a fait penser à un des moments absurdes, une habitude, excuse-moi, absurde que tu as tendance à faire souvent, c'est laquelle?
C'était aussi une question que j'avais pour toi, de c'est-tu par rapport au stand-up ou c'est dans la vie en général? Dans la vie en général. Moi, je fais ça depuis que je suis jeune. Mais je sais pas si j'ai une habitude, en tout cas. C'est peut-être vraiment pas intéressant, mais j'ai... Quand j'étais jeune, j'avais genre un lapin en toutou que ma mère m'avait donné. Et j'aimais vraiment ça. Depuis que je suis tout petit, ma mère me disait que ce que je faisais, c'est que je mettais ses oreilles entre mes doigts. Okay. Puis je frottais de même. Ça. Puis moi, la sensation de frotter quelque chose entre mes doigts, particulièrement, j'adore particulièrement ça. Puis c'est pour ça que... Genre, j'adore jouer dans les cheveux du monde. tout ça, mais j'ai rarement ce lien-là avec quelqu'un, puis en même temps, je me sens toujours mal parce que c'est pour mon propre plaisir que je vais pas, je base pas à personne, tu sais, je suis comme, ah, j'aime juste ça. Mais tu sais, mettons, je le fais souvent avec mes cheveux, ouais, genre, tu sais, puis tout ça, fait que, mais oh, c'est, ça sonne absurde, mais après, j'ai remarqué que c'est quand même relatable, il y a quand même du monde qui comprenne cette...
Moi, je te comprends.
Ouais, ouais, c'est ça, l'espèce de...
C'est la sensation, tu sais, de te parler de ton toutou qui a un lapin, puis tu sais, moi, j'en ai déjà eu aussi un toutou lapin, puis je comprends la sensation de, tu sais, c'est bizarre à expliquer, là, mais le fait de sentir le poil entre tes doigts, c'est spécial.
Ouais, il y a quelque chose entre les doigts, oui, qui est horriblement sensible, mais oui, en même temps, tu sais, c'est tes mains, tu les utilises souvent, tout ça, sont pas... Mais ouais, on dirait que là, il y a beaucoup de nerfs, je sais pas.
Je sais pas. Tu sais, moi, là, je pense à un coussin, tu sais, un coussin où que c'est comme des confettis. Puis là, tu passes ta main d'un côté, puis là, ça devient un sapin rouge. Puis là, tu mets de l'autre côté, puis il est vert. Moi, je pourrais passer des heures, je sais pas, comme ça entre les doigts.
Mais j'aime beaucoup les textures dans la vie. J'aime ça gosser avec des affaires. Tu sais, si en même temps, je travaille sur quelque chose, j'aime ça gosser avec du métal pointu. Mm. J'ai des jouets sur mon, ben des jouets ou des cochonneries ou des affaires que des fois je ramasse des trucs dans la vie, ben pas nécessairement en terre là, mais comme tu sais mettons une gogosse quelconque que je suis comme hey, ça va être le fun à toucher. Puis là ramène ça chez nous, je mets ça sur mon bureau puis là j'ai besoin d'avoir quelque chose dans mes mains, genre à gosser, à serrer fort ou à pas pour me faire mal, juste non, genre
c'est comme des twinkles, tu sais, c'est comme des twinkles où là je parle à fidget spinner, là je parle
ouais, mais c'est comme ça, fidget
spinner ou un cube, en tout cas il y a un cube Rubik ou en tout cas quelque chose que tu peux toucher, c'est juste parce que c'est inconscient des fois là, c'est même inconscient, tu pognes quelque chose, tu parles puis tu touches à quelque chose, mais bref. Ouais, je comprends le moment absurde, je peux relate, je peux faire un lien avec ça. Et là, ça m'amène à une deuxième question qui est un talent, on va y aller avec le talent. As-tu un talent ou quelque chose, une capacité que tu pourrais acquérir dès demain, que tu aimerais avoir?
Ben, moi, quand j'avais lu la question pour la première fois, ce qui m'est venu en tête, c'est... Depuis que je suis jeune, j'aurais toujours voulu être comme cascadeur. Je trouve ça vraiment cool, genre...
Ouais.
Mais comme, c'est pas pour les affaires dangereuses, n'importe quoi. On dirait que la partie que je trouve vraiment intéressante, c'est genre, on dirait que c'est, outre le fait que ta job est quand même fun, parce que tu joues dans des films, des affaires dans le même ou tout ça, mais, on dirait que c'est comme vraiment un skills qui est utile dans la vie de tous les jours, parce que ça veut dire que tu tombes, si tu tombes, tu te fais pas mal, t'es particulièrement flexible, t'es en forme, tout ça. On dirait que t'es comme, on dirait que t'es prêt à tous les obstacles physiques, puis je me considère pas comme, fort physiquement ou genre prêt à tout physiquement ou n'importe quoi, j'ai l'impression que si tu me laisses dans la forêt 10 jours, on me perd puis c'est fini, puis fait qu'on dirait que c'est comme la version moderne de genre être prêt à tout attaquer physiquement. C'est un peu comme I guess, tu sais, si tu fais genre de la boxe ou de la UFC, j'imagine que tu te promènes dans la rue en faisant genre il y a rien qui peut m'attaquer puis je suis le plus fort au monde là. Fait que ouais, on dirait qu'il y a ça de, ben je pense aussi le côté flexible. Ça je trouve ça, mais fait intéressant justement, c'est qu'à chaque fois que je pense à ça, tu sais, il y a des gens qui sont comme ah, j'aurais vraiment aimé ça, mettons, être joueur de hockey dans ma vie. Puis après ça, dans leur temps libre, ils jouent au hockey, puis ils sont quand même bons au hockey, puis ils développent ce skills-là, puis tout ça, puis t'es comme, tu sais, jamais ils vont jouer professionnellement, mais ils sont quand même bons au hockey. Ben, moi, je dis ça à propos des cascadeurs, et je fais rien pour me rendre là. Genre, je suis zéro flexible, je m'entraîne pas, tu sais, je suis même pas proche, tu sais, je fais juste faire genre, ah, j'aimerais ça dans une autre vie, tu sais.
Dans une autre vie, être flexible, ben, surtout là, tu me parles de flexibilité, puis ça me fait penser à la première chose que l'on perd quand on grandit, c'est justement ça, c'est notre flexibilité. C'est comme un muscle, je sais pas comment l'expliquer, un muscle, si tu ne l'entraînes pas, tu le perds. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Tu sais, mettons, tu parles le coréen. Si ici au Québec, personne ne parle en coréen avec toi, tu la perds. Fait que je comprends totalement l'invisibilité, pouvoir être capable de faire cascade.
Mais je pense que la flexibilité, c'est vraiment ça qui me fascine. Genre, j'ai encore ce rêve-là d'être très flexible, mais je fais rien pour que ça arrive. Mais j'ai ce fantasme-là loin dans ma tête de un jour, je vais être très flexible.
Un jour, oui.
Mais à chaque journée qui passe, mon camp pire, tu sais, dans le sens où il faudrait que je fasse juste des étirements chaque jour. Là, la solution est super claire, mais.
Moi, en tout cas, en ce moment, je t'imagine en train de faire du yoga. Je sais pas pourquoi. Hop, c'est la nourriture du chat. Ouais. Fait que moi, je t'imagine faire du yoga parce que D'après moi, c'est l'endroit où qui tu dois travailler le plus ta flexibilité, j'imagine.
Oui, moi, on m'a souvent suggéré. Quand je parle de ça, on suggère le yoga, puis il paraît que c'est juste. Ben, je pense que tu y prends goût aussi, là, au yoga, là. Genre, j'en entends que du bon.
J'ai fait du yoga, puis justement, moi, je trouve que la capacité, exactement, la flexibilité, c'est là que tu sens que tu l'as pas. Il y a des postures que tu fais, puis tu te demandes vraiment pourquoi ça existe. Mais après, tu te sens tellement bien quand c'est fini. C'est vraiment difficile à expliquer. C'est sadomaso, je sais pas comment expliquer. Mais peut-être un jour, tu pourras faire le salut au soleil, là. Un jour,
Peut-être.
à suivre. Je vais enchaîner aussi sur la dernière question qui était le voyage dans le temps. Donc, si tu pouvais voyager dans le temps, ça serait à quelle époque et où?
J'ai comme une vraie réponse puis une fausse réponse.
OK.
OK? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, admettons, ma vraie réponse, ça serait genre l'époque des dinosaures. J'adorerais
Ben
ça
oui.
voir en vrai les dinosaures, tout ça. Tout ça. Puis, ou sinon, j'ai vraiment une fascination pour l'époque, tu sais, la Renaissance. Puis tout ça,
Oui.
là, genre, je serais fasciné de voir Léonard de Vinci en vrai, puis voir son atelier, puis faire le même, ou Florence de ces années-là, tu sais, tout ça. Puis, admettons, par fausse réponse, c'est qu'on dirait que mon premier réflexe, ça serait, j'adorerais ça voir mes parents à l'université quand ils sont jeunes, ils avaient l'air de quoi. Tu sais, mais tu sais, voir que je gâcherais ma foi d'aller dans le passé pour juste aller voir mes parents, voir ils ont l'air de quoi quand ils sont jeunes. Ben, c'est juste, ça me fascine aussi le Québec des années 80, genre 70, tu sais, de genre, les époques qu'on a ratées de peu, où il y a tellement d'événements historiques qui seraient comme incroyables à voir en vrai. Fait que, ouais, je pense que ça tourne.
Ça serait ça. Puis là, tu me parles de voyage dans le temps, voir tes parents. Puis là, ça me fait penser justement au retour vers le futur. Est-ce que tu l'as vu?
Ouais,
Le
ben le
film,
concept
ouais, le
de.
concept,
Ouais.
ok, t'as vu, tu comprends le concept. Ben justement, il y a la personne, le personnage principal, il retourne dans le temps pour voir ses parents à quoi qu'ils ressemblent. Ben ça donne, là, il avait pas choisi. Puis sa mère tombe, en tout cas, elle a des sentiments pour lui. Ben si tu te rends compte que tu les vois, mais tu peux pas leur parler parce que s'il y en a.
Ouais,
Si
c'est ça, tu vas
c'est effet
changer.
boule de neige, c'est ça.
L'effet papillon, là,
Oui,
de genre
l'effet
une petite
papillon.
affaire de. Bref, en tout cas.
Oui, puis surtout, là, tu as aussi dit la Renaissance. C'est, mettons, un grand peintre comme Léonard de Vinci. Mais là, est-ce que dans ton idée de voyage dans le temps, tu parlerais italien? Là, tu
Me suis étouffé.
Excuse-moi.
Non, mais ça, c'est ça. Ça, c'est le paradoxe
Oui.
de voyager dans le
Ben
temps parce qu'on
oui.
assume qu'on va pas être capable de communiquer, mais t'es comme, ouais, mais non. C'est pas
Ouais, c'est
nécessairement, là.
ça.
Genre, en fait, en plus, tu sais, juste Québec des années 70,
Ah
comme,
oui.
sûrement qu'on parle différent, tu sais,
Ah
genre.
oui,
Puis je sais
certainement.
même pas, tu sais, je saurais même pas si on serait capable de pas se faire remarquer par notre
Ben
façon de
oui.
parler, comme, tu sais, je sais. Parce qu'on parle pas exactement comme nos parents, tout ça. Fait que là, mais, ouais, je sais, je serais curieux de voir à quel point. Tu sais, c'est comme, mettons, la France, là, tu sais,
Oui.
à l'époque des rois, là, tu sais, comme, oui, ils parlent français, mais un français, est-ce qu'on comprendrait, tu sais,
Je sais
comme.
pas. Diantre, jante dame, je sais pas, jante monsieur. En tout cas, je dis des mots. Ouais, c'est vrai, quand tu y penses, c'est pas des choses que tu. Quand tu as l'option d'aller voyager dans le temps, tu penses pas nécessairement à la barrière de la langue, de
Non,
un.
c'est ça. Moi, dans ma
Là,
tête, je serais juste
ouais, c'est
observateur.
ça,
Tu
t'es
sais,
comme
genre. Ouais,
fantôme, là. La personne, elle peut pas
c'est ça.
interagir avec toi.
Ouais, c'est ça,
OK.
idéalement. Idéalement.
Parce que je te vois un peu dans le coin caché. Puis là, il y a quelqu'un, un serveur, gentil monsieur, voulez-vous quelque chose, un latte? Je sais pas. OK, super, je trouve ça fascinant. C'est la première fois que j'entends le retour à la Renaissance ou aller voir ses parents dans un voyage dans le temps. Et je trouve ça très, très enrichissant. Puis je vais terminer l'épisode comme ça. C'est pas, ça dure
Parfait.
pas longtemps. Fait que je voulais te remercier pour ta présence,
Ça fait
Louis.
plaisir, ça fait plaisir.
Puis je te souhaite bon courage dans tes projets.
Merci bien.
T'as vraiment beaucoup d'armes, ouais, c'est ça l'expression. En tout cas, t'as beaucoup d'outils à ta main. Donc, vraiment, continue. Puis merci encore.
Ben, merci à toi.
Hey, mon entrevue avec Louis Girard Bock, qui est un grand humoriste qui a fait le prochain stand-up, il est déjà terminé. Mais c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, ben, je vais faire une chronique sur l'astrologie. Je sais pas pourquoi, l'astrologie, c'est toujours un domaine qui m'a passionnée. Lire les horoscopes, les ascendances, les signes astrologiques. J'ai envie de t'en parler parce que ça a une grande importance dans ma vie. Donc, n'hésite pas, si jamais tu as bien aimé l'épisode, de partager. Et surtout d'en parler avec tes amis, parce que ça aide tout le temps hein, quand on veut percer dans ce domaine-là en podcast. Donc, je te souhaite bonne journée et à bientôt! Je m'appelle Coralie Dubois, je suis humoriste et j'espère vraiment que tu as passé un bon moment!